quelque part que l'actrice principale, la première que vous aviez choisie, a été à un moment donné arrêtée en cours du tournage?
Voilà, ça, c'est très très bien de me poser cette question parce que je suis en colère. Et je compte le manifester parce que la journaliste du Monde qui m'a fait l'interview et à laquelle j'ai dit que l'actrice a arrêté de tourner, c'était sa, comment on appelle ça, sa volonté, c'est son choix, elle a voulu cesser le tournage. Bon, bien que bon, elle était attachée avec moi par contrat, mais j'ai bien compris. Mais je n'ai à aucun moment dit qu'elle a été arrêtée. Mon Dieu, c'est trop grave. C'est de la désinformation. Je dois donc lever tout de suite ça pour dire que l'actrice est libre maintenant de ses mouvements, qu'elle n'a jamais été arrêtée, mais qu'elle a arrêté de tourner. Voilà.
Ce qui effectivement pas tout à fait la même chose quand même.
Été, c'est autre chose.
Alors, je ne sais pas, peut-être on peut demander à nos amis qui ont vu votre film, parce que je vous le répète, je suis désolée, mais je n'ai pas vu votre film et je regrette qu'il n'ait été montré qu'une fois pendant le festival. Nous qui n'avons pas eu la chance d'être là top le mardi, quand on vient à un autre moment, on ne peut pas revoir votre film, c'est dommage. Est-ce que vous savez d'ailleurs pourquoi il n'a été montré qu'une fois?
Absolument pas, parce que bon, ils ont mis comme ça, en marge du festival, je veux dire, de... la compétition, une journée spéciale avec thème, disons, c'est la femme, islam ou tradition, pour essayer un petit peu de voir tout ça, la question autour de la femme dans l'islam. Et donc, ce film a été projeté, programmé pour appeler les débats. Donc, une seule fois. Moi, j'ai vu des gens ici me dire leur souhait de voir le film, puisque n'ayant pas pu le faire du fait du manque de place, puisque la salle était pleine. Et donc, les gens ont été obligés de repartir sans avoir vu le film.
Et d'ailleurs, le soir où il a été montré, d'après ce que me disaient Laurence et mes amis qui l'ont vu, il y avait effectivement beaucoup de monde, mais beaucoup de monde intéressé à discuter avec vous de ce film. Vous avez retiré quelque chose de cette rencontre avec le public? Vous avez senti l'intérêt qu'elle portait à tout ce qui se passe aujourd'hui en Algérie?
Absolument. C'était clair. Les gens étaient vissés à leur fauteuil et j'ai remarqué qu'ils ne voulaient pas partir. On était obligés d'évacuer la salle sur la demande donc, des organisateurs. Mais sinon, j'ai trouvé un grand intérêt. Je dirais même un engouement. Les gens voulaient comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Surtout, qu'est-ce que la femme a fait d'horrible pour mériter d'être au banc de la société, d'être comme l'ennemi numéro un pourchassé par les intégristes. Ce à quoi je réponds à chaque fois qu'il m'est possible de le faire, que la femme résiste parce que cette violence... cette injustice s'exerce contre elle du fait même de sa résistance au dictat des islamistes. Et on ne pardonne pas aux femmes de s'être mises comme ça, de s'être érigées comme barrage à la folie des intégristes. Et alors, elles le payent dans leur chair et dans leur âme, puisqu'aujourd'hui, les femmes sont enlevées, violées, égorgées, elles sont mutilées, elles sont torturées. C'est l'horreur, il faut la dénoncer. Les femmes, quelles que soient, dans le monde entier, quelle que soit leur couleur, leur langue, leur religion ou leur appartenance politique, doivent absolument se sentir concernées. Parce qu'il y va de l'avenir du monde, de l'humanité. Parce qu'on a vu ce qu'a fait le fascisme et le nazisme qui ont été portés au pouvoir par le vote. Et alors, moi, je dis, c'est la même chose, que parfois, la démocratie agit de manière à propulser au pouvoir des gens qui n'ont rien de démocrate et qui sont autant de rouleaux compresseurs de l'humanité et des valeurs universelles de la démocratie, donc de la liberté et de l'égalité. Il faut faire attention à ça. Il faut dénoncer continuellement. C'est un danger mortel qui guette tout le monde. C'est un projet totalitaire qui enferme la femme dans un coin qui la bâillonne et qui en fait une mineure à vie. Donc elle est exclue de la société. Ce n'est plus une citoyenne de son pays, mais une sous-citoyenne. Voilà.
Bon, moi j'ai vu donc votre film et je me suis quand même posé une question par rapport au personnage de l'homme, du mari. Donc vous avez montré sa folie que j'ai ressentie de très extrême. Je me suis demandé si cette outrance n'allait pas desservir votre propos, dans la mesure où les gens voyant le film vont se dire « il est fou, donc il est intégriste, seuls les fous deviennent intégristes. Moi, je ne suis pas folle. » J'avais peur qu'on associe trop la montée de l'intégrisme avec la folie. Donc, beaucoup de gens ne se sentiront pas concernés. Et j'avais peur que ça desserve votre propos.
Et je réponds tout de suite à ça pour dire que les intégristes ne sont pas fous. Les responsables, les chefs intégristes, ils sont loin d'être fous. C'est même des gens qui raisonnent parce que très près de leurs intérêts. C'est une bourgeoisie intégriste, il faut bien le comprendre. Ces gens-là ont un projet de société en tête et ils veulent l'appliquer. Mais le personnage du mari dans le film, je l'ai montré à bon escient malade. Ça veut dire un être diminué, qui n'a plus son libre arbitre et qui donc peut être malléable et maniable à souhait. Et pour moi, il symbolise cette frange de la société qui est en grande partie la jeunesse, qui est exclue de la société et qui est le produit du système éducatif en Algérie, qui donc a été fait par ces intégristes, qui n'avaient pas pour nom intégristes à ce moment-là, mais qui ne le sont pas moins. Parce que dans le FLN, les intégristes existaient déjà, puisque le code de la famille, le statut personnel en Algérie a été... voté en 84 par la PN-FLN. Et donc, on retrouve ces acteurs les mêmes aujourd'hui en coalition avec les islamistes d'aujourd'hui qui émergent. Mais en fait, c'est un produit de... C'est le FLN qui s'est auto-nourri et qui a donné la vie à ce fils maintenant, FIS, le Front du Salut. Bon, c'est pas le salut, c'est le déluge pour moi. Et donc, c'est montré dans la folie de l'homme, plus que sa folie, sa fragilité, sa vulnérabilité. Ça veut dire que cette jeunesse vulnérable, donc qui n'a pas son libre arbitre, qui ne peut pas se forger une idée idéologique et politique et sociale donc dans son pays, a été rapidement embrigadée. Alors, cette diminution de l'acteur... symbolise à elle seule comment des gens dépourvus d'outils ou d'instruments d'analyse ont pu succomber avec cette facilité et aller se réfugier dans le giron des intégristes qui en ont fait des robots tueurs, malheureusement. Parce qu'encore une fois, moi je me dis, je ne jette pas la pierre à ces jeunes qui tuent et qui se font tuer. Parce qu'ils servent et ils meurent pour un projet de société qu'ils n'ont pas choisi, qui a été choisi par plus haut. Voilà toute la différence donc, dans l'incompréhension peut-être de la folie du héros. Parce que son fils, son enfant, lui, est a priori maître de toutes ses facultés. Et c'est lui qui va doucement, doucement faire un travail lent et patient sur son père et l'avoir comme un fruit mûr dans ses mains, puisque le père bascule dans l'intégrisme. Et puisque à eux deux, ils vont prendre donc Salima, l'héroïne, la mère et l'épouse, dans un étau qui va se serrer autour d'elle. Et voilà pourquoi le mari, à la fin, s'autodétruit. Parce que c'est l'intégrisme et aussi ce clan du pouvoir qui le soutient, qui vont vers leur autodestruction. Ça ne peut pas tenir la route. Les gens ont compris aujourd'hui ce qu'est l'intégrisme en Algérie et ailleurs. Et donc, ils sont à bout de souffle et ils ne vont pas tarder à basculer puisque, bon...
Oui, ce qui donne de l'espoir tout de même, c'est le revirement du fils à la fin du film.
Bien sûr, ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. C'est pas seulement mon souhait à moi. C'est parce que j'ai rencontré des jeunes en Algérie qui ont voté fils. Et qui, après avoir assisté à ces horreurs commises au nom de l'islam et au nom du fils, se sont rétractés, ont fait machine arrière. Ils m'ont dit, mais nous n'avons jamais été pour un projet comme celui-là, qui tue et qui est la négation de l'être humain. Et on n'a rien à voir, nous, dans tout ça, on n'est pas contre la femme, on n'est pas contre la culture. Nous avons voté pour le fils, ils ont dit, pour avoir une justice sociale, pour que la corruption s'arrête, pour que les hommes reprennent leur dignité, qu'ils aient une vie meilleure. Mais là, c'est tout autre chose. Voilà pourquoi je montre dans le film le revirement donc, et le mea culpa du garçon donc, qui a été à l'origine de la destruction de sa famille, puisque c'est lui qui a apporté le virus de l'intégrisme et qui l'a inoculé dans la famille. Et là, il se réveille subitement, il déchire symboliquement aussi cette gandoura, ce camis qui n'est pas de chez nous, qui le déchire, qui dit « Vous m'avez trompé, je refuse, vous m'avez trompé. » Et là, c'est clair, les gens se sont réveillés. Et il va demander pardon à sa mère, et elle était la seule à lui prêter secours. Dans sa détresse, elle est venue, bien que diminuée, elle aussi, et sur une chaise roulante, mais elle n'a pas abandonné ce fils qui lui a fait mal. Et ça aussi, c'est un peu l'Algérie qui saura pardonner à ses enfants égarés, à les reprendre. C'est vrai que l'Algérie aujourd'hui est blessée, elle est de partout frappée, son économie elle est à genoux. Ses enfants sont déchirés, mais elle ne les abandonne pas. Elle tend la main que les enfants fassent donc reprennent, demandent pardon et reprennent la vie dans leur voilà.
Avez-vous espoir que ce film puisse être montré en Algérie?
Eh bien, je vais vous dire, madame, je vais me bagarrer, je vais lutter pour que le film soit vu en Algérie. Je me rends bientôt en Algérie, bien sûr, pas en criant dès l'aéroport, me voilà. Je vais raser les murs, je vais certainement me teindre les cheveux, porter des lunettes. Enfin, mes cheveux, ils tombent à force d'avoir subi des couleurs différentes. Et j'irai voir les autorités, j'irai me battre, et j'irai dans les rédactions de journaux pour dire, parler aussi, dites le film, il est fait pour les Algériens, sur l'Algérie et sur les Algériens. Il doit être vu ici. Et je suis prête à un débat national pour dire qu'est-ce qui ne va pas.
Dans ce sens-là, c'est vrai qu'un film, c'est autre chose qu'un livre. Un livre, ça se passe sous le manteau, ça se transmet. Voilà, un film, c'est plus dur quand même. Hein?
C'est pourquoi je vous ai dit, j'ai choisi ça exprès, pour que les gens le voient en masse et pour qu'il amène le débat. Un livre, moins de salon littéraire très restreint et vraiment, il ne touche pas la masse.
Dernière question que j'aimerais vous poser, Avia Zeynep Koudil, c'est aujourd'hui, vous êtes allée chercher, comme vous l'avez dit, un peu de quiétude et de tranquillité en Tunisie. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps Moufida Tatli, réalisatrice des Silences du Palais,
film, oui,
voilà,
oui, que j'ai aimé beaucoup.
Et qui me disait, nous, femmes tunisiennes, notre façon d'aider les femmes algériennes, c'est de continuer à exister comme femme qui a des droits et d'être un rempart à l'intégrisme. Quand vous êtes en Tunisie, vous avez cette sensation-là aussi. Et vous, comme femme algérienne, vous sentez que c'est quelque chose qui peut vous aider, cette résistance des femmes tunisiennes à essayer de se battre pour garder leurs acquis. Et vous pensez qu'elles vont réussir?
Enfin, moi, je vais être honnête, hein, je ne vise personne, je ne suis pas méchante du tout, mais je vous dis mon sentiment. Les femmes en Tunisie ne luttent pas. Elles n'ont pas eu réellement à lutter puisque leurs aînés ont déjà préparé ces acquis-là. Quoique, bon, on peut aussi dire beaucoup là-dessus, hein, parce que ce n'est pas l'idéal de démocratie en Tunisie. Ça, moi j'y étais, je sais qu'on ne peut pas manifester, au grand jour comme ça, ces idées sans encourir les foudres des autorités. Bon. Mais j'ai trouvé tout de même, chez les femmes arabes de manière générale et aussi chez les femmes maghrébines, un silence étrange. Je suis en colère. J'ai vu à Paris combien de fois des femmes françaises et européennes et algériennes, donc, et africaines manifestaient leur colère et leur colère contre l'intégrisme et ses méfaits et aussi leur soutien et leur solidarité envers les femmes qui se battent en Algérie. Mais je n'ai jamais entendu parler de ça, d'un fait analogue, ni au Maroc, ni en Tunisie, ni dans aucun pays arabe. Et ça, je trouve ça terrifiant. Terrifiant parce que en manifestant, ce ne sont pas les femmes algériennes qu'elles vont aider, mais elles vont se battre pour elles-mêmes. Pour dire, nous sommes là, attention, on ne va pas se laisser faire. Ce silence, pour le moins... qui accepte, disons, cet état de fait, me révolte, moi. C'est terrifiant que les femmes ne se sentent pas concernées dans le monde entier, et à plus forte raison, les femmes qui sont dans l'islam. Alors, je me dis, c'est bien beau d'exister, mais il faut le montrer, il faut le manifester. Il faut dire. Il faut... matraquer et manifester ses idées et son sentiment profond par rapport à ça. Voilà.
Aujourd'hui, des femmes peuvent ou essayent de quitter l'Algérie pour trouver un peu de tranquillité, de repos dans cette période de terreur qu'elles vivent. Et puis d'autres n'ont tout simplement pas le choix de partir parce qu'elles n'ont pas l'argent, elles n'ont pas les visas, etc. Comment vous, personnellement, vous vivez ce déchirement entre l'envie d'être plus tranquille et l'envie de continuer à vous battre, que visiblement on ressent bien que vous avez à l'intérieur de vous?
Moi, c'est vrai, vous avez dit le mot, c'est un déchirement continuel. Et je ne saurais concevoir ma façon de lutter hors de l'Algérie. Parce qu'il faut bien comprendre ce que veulent de nous les intégristes. Ils nous disent, celles qui ne sont pas d'accord avec nos thèses, elles se taisent, ça veut dire le silence. Elles se mettent entre quatre murs et elles ne parlent pas. Ou alors, si elles veulent se manifester contre nous, elles n'ont qu'à prendre la valise, on ne les empêche pas de partir. Ça veut dire on leur fait la part belle, on cède le terrain. Ça veut dire c'est une défaite pour nous. Ça, moi, je le vis comme une... Ça me fait très très peur d'être comme ça obligée de partir. Mais je dis encore un temps parce que je reviens. Écoutez, je n'ai pas du tout l'âme d'une héroïne. J'ai pas envie d'être une martyre qu'on va célébrer plus tard dans l'histoire. Tel n'est pas du tout mon objectif ni mon envie. J'ai envie d'exister. Moi, j'aime trop la vie. Et j'ai un trop grand respect pour la vie humaine pour laisser sacrifier la mienne ou celle des autres. Mais je me dis qu'on a besoin d'une petite retraite pour empêcher de devenir folle. Parce qu'il y a des moments où on est vraiment guetté par la folie. J'estime que ce retrait momentané, c'est pour recharger ses batteries. Pour avoir plus de tonus et d'énergie et d'aller là-bas. Donc, faire de la subversion. Vraiment. Faire contrecarrer ces projets-là, dire toujours on est là, attention, on n'a pas battu en retraite, on n'est pas fini. Voilà comment je conçois. Ceci dit, je ne peux pas vraiment en vouloir ou faire des reproches à des femmes qui ont dû quitter leur pays, l'Algérie, parce que tout le monde n'a pas la même conception du combat. Tout le monde n'a pas... C'est vraiment un tempérament et c'est très personnel. Ça ne veut pas dire qu'elles ne font plus rien pour l'Algérie. C'est faux, puisque maintenant, elles essayent d'organiser des meetings et des rencontres pour expliquer et pour attirer l'attention des gens et donc le soutien. Voilà, quant à moi, mon combat se situe là-bas. Se situe là-bas parce qu'il se frotterait les mains en disant voilà, elle est condamnée à mort, on l'a réduite au silence, elle est morte. Parce que le silence est aussi mort, c'est une mort. Nous avons envie de vivre, mais pas à n'importe quel prix, ça veut dire en étant réduite au silence. Parce que c'est aussi une forme de mort. Moi je dis, on existe et on le fait savoir. En sortant librement et en criant sa révolte. Voilà.
Merci beaucoup, mon fils. Voilà, alors j'espère que vous n'aurez pas ressenti l'extrait du débat particulièrement émotionnel comme une façon de montrer simplement quelqu'un mis à nu par les graves difficultés. Je crois que c'était d'abord pour vous montrer que quand on est dans la situation des femmes algériennes aujourd'hui, on passe d'un extrême à l'autre et c'est, j'imagine, compréhensible à vous toutes et comme à nous tous intimement. Il y a des moments où on est plein d'énergie et de colère. C'était le ton de l'interview. Ça, c'était le dimanche matin, la fin du festival, avec une énergie accumulée depuis 10 jours. Et puis le mardi soir, c'est la confrontation avec les remises en cause, c'est l'émotion, le rappel, et surtout de se dire effectivement, mais moi, qu'est-ce que je fais là, alors qu'il y en a d'autres qui sont en train de mourir. Moi, je vous raconte des sornettes, et puis il y en a d'autres qui sont en train de mourir à ce moment-là. Je trouve que c'était un peu ce contraste. Et puis, c'était peut-être aussi pour vous faire vivre une fois un tout petit peu l'atmosphère qu'il y a à Créteil et qui justifie le voyage largement à Paris une fois ou l'autre durant les 10 jours du festival, parce que c'est cette atmosphère que pour l'instant je n'ai retrouvée nulle part ailleurs, et je crois pas qu'il y... je ne suis pas une grande habituée des festivals, mais je crois que c'est vraiment une atmosphère très très particulière à celle de Créteil. Voilà pour ce qui est de notre rencontre avec Hafsa Zinaï Koudil. Je ne sais pas si son film arrivera jusque chez nous, peut-être, espérons. Et je vous parlerai dans 15 jours de cet autre film d'une femme musulmane, qui est donc le film Parole de l'iranienne Jamileh Nedaï. Comme ce film consiste essentiellement en une sorte de communiqué, elle l'a appelé un peu comme ça, un communiqué à propos des femmes qu'elle a réalisé avec l'écrivaine Machid Amir Shahi, qui est une romancière qui a été la première femme écrivaine à prendre la défense de Salman Rushdie, qui est bien sûr, tout comme la réalisatrice Jamileh Nedaï, sur la liste des intégristes, mais qui, comme beaucoup d'autres femmes, cherche à se battre, non pas avec la mort et la violence, mais peut-être avec des mots, ces mots qu'on leur refuse, puisqu'elles doivent se taire, et que... la réalisatrice Jamileh Nedaï explique dans le débat qui a suivi son film qu'elle aurait bien aimé faire un film où elle aurait pu faire une fiction ou montrer la situation des femmes, mais malheureusement elle n'avait pas les moyens. Elle a dû faire ce film dans l'urgence. C'était un film qui a coûté pas très cher, 3000 francs il est vrai, mais elle a tout fait elle-même et elle a dû se contenter de faire dire par cette romancière Machid Amir Shahi ce communiqué à propos de la situation des femmes en Iran. Mais Laurence nous a enregistré tout ce communiqué, elle a aussi rencontré la réalisatrice et je crois que ça fera l'objet d'une très belle émission pour d'ici 15 jours. Mais dans quelques minutes, après une page de musique, à découvrir le tout dernier disque, semble-t-il magnifique, je ne l'ai pas encore écouté, de Marianne Faithfull, Secret Life. Eh bien, après avoir écouté un extrait de ce disque, eh bien, nous rencontrerons l'équipe de femmes, puisque c'est un collectif qui a gagné le prix du jury cette année. Et c'est le film qui a pour titre Eden Valley par Amber Team. Marianne Faithfull, A Secret Life.
Midway, this way of life we're bound upon, I woke to find myself in a dark wood, where the right road was wholly lost and gone. I knew, how hard to speak of it, that rude and rough and stubborn forest, the mere breath of memory stirs the old fear in the blood. But when at last I stood beneath a steep hillside, which closed that valley's wandering maze, whose dread had pierced me to the heart root deep, then I looked up and saw the morning rays mantle its shoulder from that planet bright, which guides men's feet aright on all their ways.
We can go far.